Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Musique à thème, c'est que du bonheur.
On s'aime à l'antenne, on s'aime à l'antenne, de la musique à thème,
de la musique à thème.
On s'aime à l'antenne,
on s'aime à l'antenne,
du bonheur et que même,
du bonheur et que même.
Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur Radio Ravive, la radio plus près de vous. Et aujourd'hui, dans l'émission Musique à thème, j'ai le plaisir de recevoir, et là je vais essayer de me mettre, non pas sur mon 31, mais je vais cirer mes pompes, voir que ma chemise est tirée à 4 épingles, je vais me faire une petite coupe de cheveux, car aujourd'hui, oui, dans l'émission Musique à thème sur Radio Ravive, j'ai le plaisir de recevoir un général, le général David Galtier. Bonjour mon général.
Bonjour à Serge et bonjour à Oravive.
David Galtier, alors en fait il y a le général, je vais parler un petit peu de votre... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que c'est un peu le principe dans l'émission où on va rester sur le vouvoiement. Moi je pose la question.
À partir du moment où tu m'appelles général, il n'y a pas de problème.
Ouais. Non, alors je vais dire vous.
Non. C'est peut-être.
En fait, on a le général David Galtier qui est avec nous et on va parler un petit peu de son parcours et de tout ce qu'il a fait au sein du corps de l'armée française. Et on va parler aussi de David Galtier, l'écrivain d'un livre qui s'appelle « Mon combat contre le crime ». Et d'avoir lu ce livre, et ça m'a fait poser beaucoup de questions que l'on va en fait transmettre à nos amis auditeurs. Alors, général David Galtier, pour vous citer, donc vous êtes général d'armée française de la gendarmerie nationale.
Tout à fait, c'est ça. Le gradier et l'institution qui est la gendarmerie également.
Diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Absolument, c'est là que tout a commencé, si j'ose dire, peut-être le lycée militaire d'Aix en avant, mais c'est ça, c'est Saint-Cyr.
Si je vous demanderais d'écrire votre CV?
Je commencerai par dire peut-être que je suis né dans les quartiers nord de Marseille, et notamment dans les HLM des Olives, où j'ai vécu jusqu'à 15 ans, avant de partir à Aix, au lycée militaire.
Vous êtes également, depuis juillet 2021, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Absolument, avec le président Renaud Muselier, qui, je dois dire, était venu un petit peu avec moi me solliciter après ma victoire contre le Rassemblement National dans le 13e et 14e arrondissement pour les municipales de 2020.
Et donc, vous êtes également conseiller municipal donc du 7e secteur de la mairie des 13e et 14e à Marseille.
Exactement. Si j'ose dire, cette deuxième vie politique a commencé dans le 7e secteur, dans le 13e et 14e arrondissement, qui sont les arrondissements de mon enfance.
En parlant de votre enfance, vous avez fait un lien avec une chanson, parce qu'on va démarrer en musique, dans Musique à thème, et après on va tout découvrir, votre passion, votre raison, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, pourquoi vous êtes rentré donc dans la politique, qu'est-ce qui a fait que ce livre dont on va parler, qui s'appelle « Mon combat contre le crime », avec une multitude d'histoires, et je vous assure que quand on commence à lire les premières lignes, on ne peut pas s'arrêter. D'ailleurs, j'ai plein de cernes à ce voir. Allez, on va continuer avec une chanson interprétée par Michel Sardou et Garou. La chanson s'appelle
« La rivière de notre enfance ».
La programmation musicale est un choix de notre invité David Galtier.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid.
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse.
Musique à thème, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur.
La rivière de mon enfance, interprétée par Garou et Michel Sardou. Je disais tout à l'heure qu'on allait découvrir l'univers de David Galtier. Alors, je vais commencer au début à parler au général David Galtier. Et puis après, je vais parler à David Galtier par rapport à son livre et la politique. Tout d'abord, on vient d'écouter cette chanson, La rivière de mon enfance. Pourquoi ce choix musical ?
Pour deux raisons. D'abord, le thème, la rivière de notre enfance, c'est toute mon enfance ici, à Marseille, et c'est la référence au père. Et quand j'écoute cette chanson, je vois toujours mon père danser avec ma grand-mère, parce que ma mère ne pouvait pas, elle était handicapée, mais ma grand-mère, elle, était une magnifique danseuse, et donc je le vois toujours danser avec ma grand-mère. Et la deuxième raison, c'est évidemment Michel Sardou. Je suis un fan depuis toujours, depuis petit, depuis j'habite en France, depuis les bals populaires, jusqu'au lac du Connemara, ou même jusqu'au tout dernier album de Sardou. Il repart en tournée d'ailleurs, et j'espère pouvoir...
Enfin, il devait s'arrêter déjà il y a quelques années.
Oh, tous les artistes font de fausses sorties et ils reviennent. Mais il faut dire que la tournée sur les titres de Sardou a été un succès.
Carrément.
Donc, pourquoi ne pas lui-même les interpréter voilà, j'irai le revoir si c'est possible, toujours avec le même... plaisir, c'est un monument de la chanson française sans doute.
On va revenir un petit peu à cette carrière militaire. Quand on est militaire, c'est un choix. Est-ce que les parents étaient déjà dans l'armée ou est-ce que c'était une vraie motivation de rentrer dans le corps de l'armée française ?
En réalité, c'est une découverte pour moi. Je m'apprêtais à faire des études assez classiques après... Il y avait l'idée d'un baccalauréat scientifique et puis peut-être d'une prépa si les capacités intellectuelles le permettaient. Et c'est un hasard qui m'a fait intégrer le lycée militaire d'Aix-en-Provence, bon, avec un peu de contraintes familiales. Du coup, mon père m'a proposé ce choix. Je ne connaissais pas le milieu militaire, aucun des membres de ma famille non plus. Et contrairement à ce que l'on pense, même dans les lycées, on rencontre des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec le milieu militaire. Il y a naturellement une bonne proportion de garçons et aujourd'hui de filles qui suivent ce métier, ce cursus, mais ce n'était pas le cas pour moi. Et c'est en découvrant le milieu, mais surtout les hommes qui l'habitaient, que j'ai pu véritablement me forger une opinion et finalement me dire que c'était là peut-être ma vocation, c'était de servir un intérêt un peu général qui me dépassait, avec beaucoup d'actions, avec mille métiers différents, car les armées peuvent offrir la totalité des métiers. Et puis plus tard, je me suis davantage tourné vers la sécurité intérieure, mais ce n'est qu'après avoir effectué ma scolarité à Saint-Cyr. Au départ, c'est bien le lycée militaire d'Aix-en-Provence. C'est une marche autour de la Sainte-Victoire qui m'a fait prendre conscience de mes faiblesses, mais aussi des forces qui pouvaient être en nous, et surtout de cet esprit formidable de cohésion, de fraternité qui existe entre les membres d'une communauté, et là c'était la communauté militaire. Ce sont eux qui m'ont porté au tout début, lorsque je ne connaissais pas ce milieu, lorsque je n'étais pas entraîné pour y accéder à certaines responsabilités. C'est ce qui a forgé ensuite ma véritable conviction. Voilà.
Quand on sort de Saint-Cyr, on sort à quel grade ?
Saint-Cyr, à l'époque, on sort avec le grade de lieutenant. On rentre élève, alors on est aspirant, puis sous-lieutenant, et on sort ensuite en école d'application avec le grade de sous-lieutenant. L'école d'application, pour à mon époque, se passait dans l'arme qui avait été choisie. Alors ça pouvait être l'armée de terre avec l'infanterie, l'artillerie, le génie, les transmissions. Et moi, j'avais choisi la gendarmerie. Et ce n'est qu'après la fin de cette année d'application que nous obtenions le grade de lieutenant pour 4 ans. Aujourd'hui, comme la scolarité est à 3 ans à Saint-Cyr, eh bien, ils sortent lieutenant.
D'accord. Et combien il faut de temps quand on sort lieutenant pour arriver général ? Combien d'années ? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs étapes.
Oui, bien sûr. Il faut passer par tous les grades.
Il y a le lieutenant.
Lieutenant-capitaine. Capitaine-commandant. Capitaine, escadron. Lieutenant-colonel. Colonel. Et ensuite, vous accédez au premier grade de général, qui est général de brigade.
Le fait qu'en France, on ne fasse plus le service national, est-ce que c'est une bonne chose ou non pour vous ?
À mes yeux, c'est l'une des erreurs historiques du président Chirac. Parce que même avec, je dirais, toutes les raisons qui étaient celles de l'époque, et je les ai suivies, il y avait les fans et les partisans d'une armée très professionnelle, à l'image de ce qui se passait en Grande-Bretagne. Il y avait les contraintes économiques, il y avait le refus aussi d'une certaine partie de la population d'être soumis à ce régime, sans compter qu'à l'époque, seuls les hommes effectuaient leur service national. Alors pour toute une somme de raisons, à l'époque, le chef des armées, puisque le président de la République est chef des armées, a fait ce choix. Je ne suis pas sûr qu'il ne l'ait pas regretté à la fin de ses mandats. Si je pose la question, c'est parce que j'ai un doute. Et je crois qu'au vu de l'état de notre pays...
Vous l'avez déjà côtoyé ?
Quelques années, pas directement, indirectement, puisque j'ai été aide de camp de certains ministres, j'ai été conseiller d'autres. Je pense qu'il y avait matière à transformer sans doute ce service militaire, mais en réalité, on parle toujours du service militaire, il y a un service national. Et le service national engerbe un grand nombre de services. Et il y avait sans doute des services à la personne, des services civils, des services aussi militaires à maintenir, sans doute sous une autre forme. L'avoir quasiment supprimé, parce qu'on ne peut pas dire que la journée d'appel de préparation à la défense est un service militaire. C'est un test que l'on passe, voilà, pour que les jeunes gens fassent un effort d'information, mais pas plus.
Alors, il y a quand même une éducation.
Puis,
aussi.
Hein. Maintenant, on a un peu plus que cela avec tout ce qui est aussi issu du volontariat sur le service militaire, volontaire, etc. Mais voilà, tout ça ne remplace pas le service militaire que l'on a connu par le passé. Bon, je pense que seules les armées à l'époque étaient capables d'encadrer de telles générations. On allait pratiquement jusqu'à 800 000 être capables d'intégrer, de former, d'accueillir. Mais on ne le peut plus. On ne le peut plus parce que nous avons perdu les structures, les infrastructures qui vont avec et qui permettaient d'accueillir ces jeunes. Donc, ce sont d'autres formules, mais
est-ce qu'il y a une question de budget dedans, peut-être ?
Oui, bien sûr, mais ça fait partie des raisons qui ont plaidé pour la suppression du service militaire, en tout cas son adaptation, mais je crois que ça valait le coup de temporiser un peu, de davantage réfléchir, et au final, de sortir une formule plus adaptée et qui garde ce lien avec la nation. Car si vous n'avez plus ce pilier qui est un pilier de cohésion, eh bien la nation se délite un petit peu, on perd le sens des choses, on a surtout ce mélange, cette mixité des populations, des communautés, ne se fait pas. Et par conséquent, c'est la nation qui en paye le prix.
En fait, dans la globalité de tout ce que l'on vient de dire, c'est le service militaire, il faut le remettre en place.
Il faut retrouver une forme
un
de service
système.
Qui permette justement de redonner un peu plus de cohésion à notre nation et à nos membres. Et pour ça, oui, quel qu'en soit le coût, tout simplement.
Avec une mixité homme-femme dans
exactement,
le service.
Mais exactement. Et puis une mixité entre les différentes couches de la société, des différentes origines, ce que l'on n'a quasiment plus aujourd'hui. On retourne vers du communautarisme et c'est ce qui est dramatique pour notre pays. Le service militaire offrait cette opportunité. Et puis, il y avait aussi la préparation à l'emploi. On ne le dit jamais assez. Combien de jeunes ont, grâce au service militaire, pu obtenir leur permis de conduire, leur transport poids lourd, combien ont été formés à un certain nombre d'activités qui ont servi tout au long, ensuite, de leur carrière. Être un peu loin de chez soi, voir du pays.
Contact humain avec d'autres personnes.
Ce contact humain est irremplaçable. Et j'avais exercé pendant quelques mois, au titre de mes fonctions à Saint-Cyr, dans ma scolarité, un encadrement des jeunes de ce service national. Au plus près, c'est-à-dire avec le grade de sergent. Donc vous voyez, quand on était à Saint-Cyr, on n'était pas lieutenant tout de suite. Et pendant quelques mois, nous avions des jeunes qui venaient et nous suivions toute une préparation militaire de base. Et initiale, donc, les gens venaient, je l'ai effectué moi au 9-9 à l'époque, c'est-à-dire le 99e régiment d'infanterie près de Lyon. Et il recevait les jeunes de la banlieue de Marseille, vous voyez, la banlieue de Lyon. Alors, c'était pas forcément très facile, mais...
Mais la banlieue de Marseille, vous la connaissiez?
Moi, je la connaissais, je connaissais ces jeunes. Beaucoup arrivaient sans repère, vraiment. Aucune notion d'horaire, aucune notion de discipline, aucune notion... je dirais, de reconnaissance, ni parfois d'entraide entre eux, eh bien, au bout de seulement 2 mois, ces jeunes étaient capables de se retrouver, d'avoir un repère, de se lever à l'heure, de s'habiller correctement, de faire un certain nombre de tâches quotidiennes, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi au profit de la collectivité. Et ils repartaient parfois transformés, je l'espère bien, mais j'en suis convaincu, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur village, dans leur commune, et ils y apportaient quelque chose de positif.
Tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez de Marseille, dans les quartiers du côté du 14e arrondissement, mais vous avez quand même une tendresse particulière pour la musique italienne.
C'est vrai. Et ça, c'est mon épouse qui est d'origine italienne.
Alors, ce que je vous propose, c'est de retrouver une chanson de Adriano Celentano qui s'appelle
L'emozione non ha voce.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Sarò per sempre amico, pur geloso come sa. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia. Poi sarà quel che sarà.
Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi, pienamente noi.
Aura Vive, plus près de vous.
Bonjour, c'est Michel Drucker. Écoutez Musique à Thème, c'est que du bonheur.
Et c'est que du bonheur aujourd'hui de recevoir dans notre émission Musique à Thème sur Radio Aura Vive 3, www.radio-auravive.fr, le plaisir de recevoir donc David Galtier, général. Monsieur, on dit simplement général.
C'est comme vous voulez.
Mais attention, tout à l'heure, on va se tutoyer quand on va parler du livre.
Avec plaisir.
Quoi qu'on pourrait commencer à se tutoyer maintenant, parce qu'on va parler de ton engagement politique. Alors, je le disais en début d'émission, tu es conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2021, et puis également, un an avant, en 2020, conseiller municipal du 7e secteur, c'est-à-dire la mairie des 13-14 à Marseille.
Absolument, avec une pointe supplémentaire, si je puis me permettre, élu également conseiller métropolitain et élu avec proposition de la présidente Martine Vassal à la vice-présidence des sports, des équipements et infrastructures sportives sur l'ensemble de la métropole, ce qui est une fonction importante et sans doute celle qui aujourd'hui d'ailleurs me prend le plus de temps, car avec la Coupe du Monde de rugby qui a été préparée, la préparation des JO 2024, plus l'ensemble des manifestations sportives, je pense bientôt Marseille-Cassis, à celles qui se sont passées et à celles qu'on va préparer, c'est quand même le cœur du sujet pour le conseiller métropolitain que je suis.
Tu parlais de rugby, et puis c'est vrai qu'au début on disait « ouais, l'organisation, c'est pas ça ». Et on voit que ça se passe merveilleusement bien à Marseille.
Je crois qu'il faut beaucoup remercier les services qui ont préparé ça de façon remarquable. Mais il ne faut pas l'oublier, les spectateurs et les supporters qui sont des gens adorables, d'où qu'ils viennent. Moi, j'ai vu la Namibie, j'ai vu les Tsonga, j'ai vu l'Afrique du Sud, l'Écosse, tout le monde vient, tout le monde chante. C'est une fraternité des peuples absolument extraordinaire. Et ça, c'est quand même le rugby.
Alors, pourquoi cet engagement politique? Quel a été ce petit déclic?
Alors c'est d'abord lié aussi à cette fonction que j'ai exercée pendant près de 40 ans au sein de la gendarmerie nationale. Comme vous le savez, les gendarmes sont très proches de la population et aussi des élus. Et à force de côtoyer des élus, du maire jusqu'aux plus grands élus du peuple, et participer assez activement à l'information de nos élus nationaux, régionaux, départementaux, j'ai eu envie de m'y mettre aussi. Lorsque j'ai été libéré de mes obligations militaires, j'ai été appelé par Martine Vassal, qui m'a demandé d'abord de travailler un peu sur un projet métropolitain avec elle, sur les questions de sécurité, avec quelques experts. Mmh. Et de là est née notre volonté d'aller un peu plus loin, et peut-être d'essayer de mettre à l'application les propositions qui avaient été faites au niveau municipal, et ensuite métropolitain. Donc j'ai été attiré par cela, et tout naturellement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'engager une bataille politique là où j'avais le plus de légitimité, c'est-à-dire là où j'ai vécu toute mon enfance, toute ma jeunesse. Après, j'ai bourlingué, j'ai fait plus de 18 mutations, donc le vrai sens de mon engagement, s'il doit exister, c'est là où j'ai vécu avant. Et peut-être, on verra demain, là où je vivrai après, on verra.
C'est quoi le rôle d'un conseiller? Alors, ouais. Conseiller PACA, conseiller de la mairie des 13-14, est-ce que d'abord, entre les deux, il y a un rôle différent?
C'est très différent, très différent. C'est la différence qui existe d'ailleurs entre les compétences des collectivités. Un conseiller métropolitain, alors pour ce qui me concerne, j'ai une délégation au sport et aux infrastructures. Mais la métropole, vous le savez, vise en priorité à assurer les transports, la propreté, la mobilité, l'environnement, l'aide aux entreprises, voilà. Et ensuite, vous avez, comme d'habitude, des compétences dites partagées, sport, etc. Donc la métropole a des missions prioritaires. La commune, c'est le management de proximité, c'est la gestion au profit des habitants. Nous sommes dans le secteur et naturellement, il faut travailler avec la mairie centrale, qui n'est pas du même bord politique que nous. Et là, je crois que la maire du 13-14 fait un travail formidable de terrain pour essayer de convaincre la mairie centrale des attentes à honorer de nos habitants, 160 000 hein, dans le secteur, 7e 7e secteur de Marseille. Donc c'est un travail, vous voyez, de proximité de tous les instants, qui va jusqu'à la propreté locale, les trottoirs, l'aménagement des stades, les jardins, les parcs, et puis ce besoin aussi de tranquillité publique. J'évoquais la salubrité, mais de tranquillité publique. Et ça se fait aussi en essayant de convaincre d'amener la police municipale au plus près des besoins des habitants, ce qui n'est pas toujours évident, je vous le concède. Au niveau régional, c'est encore différent. La région a de grands chantiers avec des transports interdépartementaux, avec les trains, les lycées. Tout à l'heure, je vous parlais de la commune avec les écoles. Là, ce sont les lycées avec la région. Et puis, des compétences qui s'exercent aussi là dans le domaine de l'environnement, des grandes entreprises. On aide aussi sous certains aspects sécuritaires, même si c'est pas la compétence même de la région. On vient sur la sécurité des lycées, la sécurité des transports, la sécurité des massifs forestiers, la protection. Voilà, donc chaque grande entité territoriale a ses missions. Donc moi, pour la métropole, c'est le sport. Pour la commune, eh bien, je participe évidemment au conseil d'arrondissement en soutien de Marion Mareille, pour la maire de secteur. Et pour la région, je suis plutôt dans les commissions sur le patrimoine, sur la jeunesse, le lien intergénérationnel. Un peu également de sécurité et défense, ça ne vous étonnera pas.
À l'heure actuelle, quel est le point crucial sur lequel on doit travailler ?
Point crucial,
la sécurité,
c'est
la propreté.
La sécurité. Rien ne se fait, rien ne peut se faire sans la sécurité.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ?
Vaste question que vous me posez. Et si j'avais évidemment la réponse, je ne serais pas ici, je serais au moins ministre de l'Intérieur.
Oui, mais vous êtes conseiller, donc vous êtes plus proche que moi, qui suis un simple animateur radio.
Je suis conseiller, mais encore faut-il rester à sa place. Et la place du conseil municipal, certes, c'est de travailler à ce que la sécurité soit mieux assurée, mais nous n'avons pas la majorité.
Est-ce qu'il faut embaucher beaucoup plus ?
Je voulais simplement dire que donc la commune et l'État donc ont des responsabilités avérées en termes législatifs, mais aujourd'hui, la métropole, le département et la région aident aussi, parce qu'on voit bien que ces deux seules entités, c'est-à-dire l'État d'un côté pour le haut du spectre, si vous voulez, de la lutte contre la criminalité, et la commune avec la tranquillité publique, n'y arrivent pas bien. Ou du moins, on éprouve un grand nombre de difficultés. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Si vous ne travaillez pas sur le fond, vous évoquiez tout à l'heure le service militaire. Si vous ne travaillez pas en matière de prévention, sur l'éducation, si vous ne donnez pas à la plus grande partie de la population un certain nombre de valeurs à respecter, de tout simplement de lois qu'il faut expliquer, de comportements à encadrer, eh bien, on n'arrivera pas. Quelle serait aujourd'hui, à mes yeux, la mère des batailles, pour vous répondre un peu à votre question ? Eh bien, je crois que c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants et les stupéfiants. C'est une bataille qu'il faut aujourd'hui mener et qu'on ne mène pas, me semble-t-il, à la hauteur des dangers qu'elle représente.
On va continuer en musique avec le patron, le boss, le taulier, Johnny Hallyday. Une chanson qui s'appelle « Le bon temps du rock'n'roll ». Et en fait, David Galtier, il est rock'n'roll ?
Musique à thème, c'est que du bonheur.
Et c'est que du bonheur d'être avec vous, chers amis auditeurs, sur Radio Auraviv, la radio plus près de vous. Et nous sommes en compagnie du général David Galtier. Et là, on va parler d'un livre qui est un mémoire à toutes les histoires qui se sont passées. Alors, affaires résolues, affaires non résolues, affaires qui t'ont marqué. Ça s'appelle « Mon combat contre le crime », édité chez Robert Laffont et coécrit avec Jean-Michel Verne. De l'affaire Grégory au crash de Germanwix. Alors, l'affaire Grégory, d'abord qui n'a pas encore été résolue, ou presque, ou pas, je ne sais pas. Enfin, pour moi, elle n'est pas encore résolue.
À mon sens, à moitié, mais il y a toujours effectivement une grosse incertitude sur le donneur d'ordre.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire toutes ces histoires, en sachant que tu es général des armées, de la gendarmerie nationale, tu n'es pas, excuse-moi, mais tu n'es pas inspecteur, tu n'es pas commissaire, et pourtant, tu as voulu faire connaître ces histoires au grand public. Pourquoi ?
Parce que c'est un citadin qui me parle, là, tu vois. Si tu avais vécu sur 95% du territoire un peu en dehors des grandes villes, tu aurais bien vu l'action en matière de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Sur 95% en fait, du territoire, c'est elle qui exerce ses missions de police judiciaire. Un gendarme est fait pour arrêter le voleur. C'est la base. Ça fait 9 siècles que ça dure. Sauf que les médias, la culture très citadine de notre pays fait que on entend parler véritablement et on ne voit que des films où se produisent, avec talons d'ailleurs, nos collègues policiers. Or, il y a entre 400 et 800 homicides par an chaque année. La gendarmerie en traite la moitié. Et la police traite le reste. Alors, on parle peut-être plus des homicides, effectivement, en zone dite de police ou traités par les policiers. Il y a beaucoup plus de scénarios, de films qui montrent le métier du policier. Mais le métier des gendarmes, c'est pareil. Et ça fait, encore une fois, je le répète, 9 siècles que ça dure. Donc, moi, lorsque j'ai intégré la gendarmerie, mon intention, c'était de participer à la sécurité intérieure. Et sécurité intérieure, on y participe sous plusieurs formes. D'abord, par la sécurité publique, la police de proximité, c'est ce que font nos brigades territoriales. Il y en a d'ailleurs 238 là, qui viennent d'être recréées. Bon, on en avait supprimé 1000 hein, en 30 ans, donc on peut en recréer, c'est bien. Et puis, il y a cette mission que nous exerçons conformément à la loi, qui est une loi qui date d'ailleurs de 3 siècles et qui continue tous les siècles à peu près d'être rénovée dans les mêmes termes. C'est la dernière, c'est de 2009 sur la gendarmerie, et qui fait de la police judiciaire l'une des missions essentielles, à mes yeux la mission essentielle. Donc quand tu fais de la police judiciaire, bah, tu arrêtes les criminels. Et moi j'ai eu la chance dans ma carrière, d'exercer dans de grands nombres d'unités dont la vocation essentielle était l'exercice de la police judiciaire.
Tu as été au cœur de ces certaines enquêtes.
Je me suis permis de mettre un possessif et de mettre le mot, parce qu'il s'agit bien de mes combats, et je ne parle que des affaires où je suis intervenu, soit au titre de directeur d'enquête, soit au titre de coordonnateur ou de fournisseur de moyens opérationnels.
Et pourtant, tu as hésité à écrire ce livre. Tu as voulu garder tout ça en silence.
Je ne l'ai fait qu'après mon passage en deuxième section des armées, et évidemment pas pendant mon temps d'activité. Pour autant, j'en avais gardé un souvenir précis qui m'a permis, avec le concours de Jean-Michel Verne, qui m'a lui fait un petit peu, pas romancer l'histoire, mais me l'a fait mettre au présent et un peu y a mis beaucoup de ma personnalité, de mon histoire. Voilà pourquoi, au terme de cette carrière en gendarmerie, j'ai souhaité parler de toutes ces affaires qui me tiennent à cœur, parce qu'il fallait aussi rendre hommage à tous ces enquêteurs qui m'ont aidé à faire ma carrière, parce qu'une carrière, on ne la fait pas seule.
Alors, dans ce livre, on parle de plusieurs enquêtes, mais elles sont bien précises et je peux dire elles ont une personnalité, une identité. Comme ça, là, au hasard, eh bien, on parle de la fabrication d'un innocent. Ça veut dire quoi? La fabrication d'un innocent.
C'est
ce que tu dis dans le livre, hein. Tu racontes, tu as un récit dans ce livre.
Mais c'est une riposte en fait, c'est une réponse à une phrase de Maître Vergès, qui est un brillant avocat dit de rupture dans cette affaire, qui est l'affaire Omar Haddad, et qui a totalement dévié le combat qu'il fallait mener pour la vérité, et qui, plutôt que d'aller chercher ce que tout enquêteur fait, c'est-à-dire des traces concrètes, des preuves, des éléments matériels, etc., est allé tout de suite sur le domaine et le champ du racisme, supposé, évidemment, du président de la cour d'assises, peut-être même des enquêteurs, ou de l'orientation de l'enquête. Et de finir par cette phrase absolument extraordinaire sur les marches du palais en disant « Il y a un siècle, on condamnait un officier parce qu'il était juif. » Il faisait évidemment référence au capitaine Dreyfus. Mmh. « Et aujourd'hui, vous condamnez un pauvre jardinier parce qu'il est d'origine marocaine. » Voilà. Et donc cette phrase a éclipsé tout le reste. Et les médias n'ont retenu que cette phrase, et donc ont estimé que tout avait été fait de façon partisane et orienté vers la seule culpabilité d'Omar Haddad. J'essaie de démontrer que ce n'est pas le cas.
Après chaque enquête, pour écrire ce livre, c'est de mémoire, ou est-ce que tu avais des références, tu as récupéré certains comptes rendus. Comment ça s'est passé ?
J'avais déjà une bonne mémoire de ces dossiers et je suis allé naturellement au plus près des enquêteurs et des directeurs d'enquête. Par exemple, pour Grégory, je suis allé retrouver mon ami, le colonel Étienne Sesma, qui à l'époque était capitaine Étienne Sesma. Pour l'affaire Omar Haddad, je suis allé revoir le directeur d'enquête.
Et donc, il y a eu des recherches.
Naturellement. Oui. Naturellement. Pour chacune de ces affaires, Élodie Kulik, c'est pareil, l'ancien patron de la section de recherche d'Amiens, qui a fait un travail formidable, ou ce capitaine de l'Institut de recherche des criminels de la gendarmerie, qui également a fait un travail exceptionnel. Et donc, là où j'ai eu le moins besoin, c'est lorsque j'étais moi-même directeur d'enquête sur notamment la recherche d'Émile Louis en tant que coupable sur les disparus de Lyon. L'affaire Marie-Christine Audot.
C'est dans les affaires non classées.
Cold case, c'est ça.
C'est les cold cases.
C'est les fameux cold cases que l'on reprend lorsque un élément matériel intervient qui nous permet de relancer l'enquête. Elle n'avait jamais d'ailleurs été abandonnée par la section de recherche de la Cour d'appel de Paris. Mais j'ai vécu aussi en direct cet enlèvement terrible de Marie-Christine Audot, la joggeuse de Seine-et-Marne,
oui,
enlevée pendant son jogging, enfermée dans un coffre de voiture. Ça a été pour nous un traumatisme absolument terrible, parce que nous l'avions en direct et nous avons écouté la bande de son appel et de son cri de désespoir depuis son téléphone portable dans le coffre de la voiture. Elle a appelé les gendarmes directement du coffre. Et donc nous avons vécu son calvaire en direct et sans malheureusement pouvoir immédiatement intervenir. Et lorsque, évidemment, nous avons pu interpeller le véhicule, le coupable, et il était trop tard, il avait déjà commis son forfait. Voilà ce type d'affaires. J'y étais aussi en direct avec le procureur de la République, donc je peux en parler véritablement avec tous mes souvenirs.
Est-ce que, après avoir vécu toutes ces affaires, psychologiquement, ça marque ?
Oui, indubitablement.
Ou est-ce on est dans la profession ?
On est professionnel. C'est-à-dire que au moment où vous avez la charge de l'enquête ou de la coordination, c'est pas le moment de laisser place à l'émotion. Donc vous n'êtes, vous ne suivez qu'un objectif. C'est trouver le coupable, rechercher la vérité, sauver des vies. Donc c'est ce qui vous porte. Les interrogations, l'émotion ne vient qu'après, lorsque vous y repensez ou lorsque vous préparez le procès en première instance, puis en appel, ou lorsque vous écrivez un livre et qu'il vous faut revenir sur ces témoignages, ces souvenirs passés, qui sont pour certains douloureux et pour d'autres heureux.
Dans ce livre également, on parle des affaires non classées.
il y a un grand nombre, malheureusement trop, mais de cas d'homicides irrésolus. On a à peu près un taux de réussite de 80% sur les homicides. Donc vous faites le calcul, je vous ai parlé tout à l'heure de 400 homicides par an, 80%, vous voyez ce qui reste chaque année.
Café, 32, 320, il reste 80.
Il reste 80 à faire, à élucider chaque année. Heureusement, la technique nous permet, avec le temps, notamment avec les ADN, les empreintes génétiques, mais aussi les efforts qui sont faits sur les techniques d'écoute, les progrès tout simplement réalisés par la science, grâce aux scellés, lorsqu'ils ont été préservés dans de bonnes conditions, nous permettent de revenir sur ces affaires et d'exploiter ce qui n'avait pas pu l'être les années précédentes.
Il y a un événement qui s'est passé novembre 2015, de mémoire. Il y a eu plusieurs attentats à Paris. Tu étais au cœur de cette action.
Eh oui, c'est une affaire un peu... Alors, elle est venue de façon totalement folle en plus, parce que c'est une succession de faits dramatiques. Tout ça, au départ, c'est la Germanwings, et lorsque nous avons traité en 2015 la Germanwings, c'était pendant les mois de printemps de 2015, l'ambassade d'Allemagne nous avait toujours dit, écoutez, le travail qui a été fait par le préfet, les gendarmes, les policiers, doit être véritablement mis en valeur, et nous demanderons une décoration auprès de la chancellerie allemande. Et nous sommes effectivement invités ce soir-là à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et nous voyons remettre avec le préfet Cadeau, avec la préfète des Hautes-Alpes et le patron du SDIS, des pompiers, une grande décoration, une haute décoration allemande, qui était l'officier du mérite allemand, l'équivalent de la Légion d'honneur, si j'ose dire. Et par la suite, il nous invite à assister au match France-Allemagne, au Stade de France. Et c'était ce jour-là. Et nous sommes partis en bus, avec donc nos invités, qui avaient déjà, pour certains, travaillé sur la Germanwings, qui avaient été marqués par cette affaire, notamment des familles. Et nous nous retrouvons au Stade de France. Et nous vivons un deuxième événement complètement fou, qui sont les attentats de cette soirée de 2015.
Il y a eu le Bataclan.
Oui, alors nous étions au stade. Nous avons entendu très distinctement les deux bruits. Dès le premier, d'ailleurs, je n'ai pas estimé, moi, qu'il s'agissait d'un pétard ou de ce qu'on avait dit à l'époque. C'était la bombe de Maradona, vous savez, c'était ces grandes qu'on faisait péter dans les stades italiens à Naples ou autre. Non, c'était pas du tout ça. Et j'avais demandé à des gendarmes d'aller vérifier ce qui se passait autour, et ils sont revenus assez vite en me disant tout est bloqué, il se passe quelque chose. Et du coup, à la mi-temps, je suis allé moi voir les policiers qui avaient bloqué. Et j'ai reçu un certain nombre d'appels qui ont commencé à nous inquiéter sur la situation hors le stade. Voilà, donc nous l'avons vécu en direct et nous sommes prémunis, nous avons pris un certain nombre de précautions à la fin du match pour ne pas ressortir immédiatement. Moi j'avais avec moi des familles, des enfants, on a fait une reconnaissance jusqu'à l'hôtel, j'ai imposé un certain nombre de mesures.
Et tout ça c'est écrit dans ce livre qui s'appelle, donc je le répète, oui, Mon combat contre le crime. Mon combat, parce que toutes les histoires racontées dans ce livre sont véridiques. Et je vous invite vraiment à l'acheter. Où c'est qu'on peut se le procurer, ce livre ?
Alors, il y a à Marseille, à ma librairie préférée, c'est la librairie du Prado, autour du derrière Pierrot et Coquillage, vous voyez, en face du Stade Vélodrome, la rue qui monte, voilà, on retrouve la librairie. Et ils en ont encore un bon nombre, donc on peut y aller.
S'il y en a plus, il faut leur demander.
Les réseaux, et ils le demanderont parce qu'il y a eu un retirage. Ce livre a en plus une histoire qui est complètement folle. C'est que je le sors fin 2020, au moment où les librairies ferment à cause de la Covid.
Ouais, c'est vrai.
Donc toute la campagne de com qui devait se faire...
Foutue.
est foutu, tombe à plat. Et il ressort fort opportunément en 2023 parce que le prix Edgar Faure et le jury de Edgar Faure lui redonnent un prix qui est le prix de l'œuvre engagée 2022. Et donc en 2023, j'ai été autorisé, d'abord il y a eu une publication, on a retiré plusieurs milliers, je crois 2 ou 3 000 exemplaires, et donc je refais aujourd'hui, comme avec vous, une petite campagne de publicité pour relancer ce livre qui n'a de toute façon pas d'âge. Puisque les affaires n'ont pas d'âge.
Elles sont éternelles. Il y a un site où on peut découvrir tout ton parcours.
Plus simple, je vais faire un peu de pub sur Wikipédia. Hein.
Ouais.
Vous allez directement chez le...
C'est vrai qu'on n'en parle jamais, Wikipédia.
Et vous trouvez mon parcours assez précis, je crois, qui a été validé. Donc.
On va revenir sur ce livre. En fait, on va parler de chaque chapitre. Alors, je vais les citer tous. Voilà, on va
D'accord.
prendre le temps. On va tous citer les titres, hein, bien sûr. Et si tu veux faire un petit commentaire sur chacun. Alors, ça démarre par La tempête sur la Vologne.
C'est notre affaire Grégory, 84. Rappeler que le capitaine Étienne Sesma a fait son possible et redonner aux enquêteurs tout leur honneur.
On en a parlé, La fabrication d'un innocent.
C'est Omar Haddad, c'est Omar l'a tué.
Les experts.
Les experts, c'est lorsque nous intervenons sur les crimes flagrants et que nous sommes capables aussi, par la suite, comme dans l'affaire Élodie Kulik, de revenir 10 ans après et grâce aux prélèvements qui ont été faits, de ressortir une comparaison et de matcher avec un coupable.
Quand on réussit une affaire, il y a une fierté, évidemment, travail accompli.
Très grande fierté et qu'il faut pouvoir rendre aux enquêteurs qui ont travaillé avec nous. Mais il ne faut pas oublier que ce que nous le faisons aussi pour les familles de victimes.
Ce sont
les premières à être, honorées de cette réussite parce que nous le leur devons. Nous leur devons la vérité et nous devons travailler pour arrêter les coupables.
Il y a également un chapitre sur les crimes flagrants.
Oui, parce que nous ne disons jamais assez quel est l'intérêt de disposer d'un maillage territorial qui nous permet de rechercher les criminels dans le temps du flagrant délit, de pouvoir déclencher comme ça sur le territoire les 3300 brigades, tous les commissariats par des diffusions de portraits robots. C'est lorsque tout le monde s'y met, lorsque nous luttons contre de grands criminels.
Il y a également, et là c'est un sujet d'actualité toujours, c'est la guerre de la drogue.
Ah, les drogues, ça c'est effectivement ce que rencontre un enquêteur dès son premier poste. C'est vraiment ce à quoi on est confronté. Alors moi je raconte l'affaire de Khoury. Khoury c'est le boxe en arabe. Et c'est une affaire internationale avec des rebondissements absolument incroyables. Il y a eu aussi le cadavre de l'Estéron. L'Estéron, c'était du côté de Nice, lorsque j'étais en poste dans les Alpes-Maritimes. 3 cadavres découpés, dépecés, oui, sur le bord d'une route. Et puis les plus sympas, si j'ose dire, pardonnez-moi, mais l'hélicoptère de la drogue, là, on s'est bien amusé parce que c'était un fly fast et qui transportait 500 kilos de cannabis à chaque fois entre l'Espagne et une petite commune de l'Hérault.
Est-ce qu'il y a des informateurs ?
Naturellement. Et sans informateur, il est difficile parfois d'aboutir dans des affaires. Mais tout ça est encadré, il peut y avoir des rémunérations, mais le dispositif pour les informateurs est un dispositif très encadré, très encadré.
Les crimes contre l'humanité, tu en parles dans le livre, quel a été le plus grand crime de l'humanité que tu aies connu ?
Alors, jusqu'à présent, je ne peux pas ne pas revenir sur la poursuite d'Aloïs Brunner et le crime contre l'humanité avec ce grand criminel qu'a été Aloïs Brunner. On y a consacré des années à la section de recherche de Paris pour essayer de démontrer qu'il était en Syrie et qu'il y était mort. Je pense que je donne quelques pistes en tout cas avec mon ami le capitaine Philippe Matty. Nous y sommes parvenus avec l'aide aussi de grands experts, de grands spécialistes, notamment le père et le fils Klarsfeld. Ça, c'est un combat effectivement très important, mais par la suite, tous les conflits, malheureusement, débouchent sur des actions qui ont souvent un caractère, bien sûr, criminel, pas chaque fois, heureusement, de crimes contre l'humanité, mais il y a des actes faits qu'on appelle des crimes de guerre également, et qui sont... qui font l'objet de condamnations par les Nations Unies. Et donc, il faut des unités. Ça s'appelle l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. On revient sur l'ex-Yougoslavie, sur le Rwanda et aujourd'hui en Ukraine.
D'actualité.
Absolument.
Dans ce livre, on démarre avec Tempête sur la Vologne. C'est l'affaire Grégory Villemain. Et on termine avec la catastrophe aérienne de la Germanwings. Et là, ça a été un grand, grand mystère. On va rappeler l'histoire rapidement. En fait, c'est un Airbus A320 qui part d'Espagne, qui survole la France, qui arrive dans les Alpes du Sud et...
Et les Alpes, même de Haute-Provence, c'est sur la montagne des Trois-Évêchés. C'est à près de 2000 mètres, un peu moins. Et là... En une seconde, cet Airbus va disparaître, écrasé contre la montagne. Et nous serons avec le procureur de la République, M. Brice Robin, procureur de Marseille à l'époque, pôle des catastrophes, nous serons confrontés à ce désastre, cette catastrophe, et surtout, de façon totalement incroyable, à la disparition de cet avion, qui, à près de 800 km/h, est venu s'écraser contre la montagne. Mais lorsque nous arrivons avec l'hélicoptère, seuls les montagnards du peloton de gendarmerie d'Haute Montagne, avec l'hélicoptère, sont descendus sur le site. Et nous ne voyons rien. Nous nous attendons à trouver des dégâts de l'appareil. Nous ne voyons rien. C'est incroyable.
David Galtier, vous étiez là au début
oui.
de... Enfin, je veux dire, quelques heures après ce crash.
Une heure après le crash, en réalité.
D'accord.
Parce que parfois, les situations sont ainsi faites. J'étais en inspection au groupement d'hélicoptères de hier. Et le Christophe Brochier, qui commandait la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, m'appelle et me dit « Nous avons perdu un avion sur les radars. Nous partons avec le procureur de la République sur place. » Et le préfet pour essayer de savoir ce qu'il en est. Et naturellement, dès qu'on a ce type d'alerte, j'ai imaginé le pire. Parce qu'on ne lance pas un appel ainsi sans avoir déjà des doutes. Et j'appelle donc le procureur de Marseille parce que qui dit catastrophe dit saisine du pôle de Marseille spécialisé. Je lui propose de le récupérer en hélicoptère et de monter directement sur place. Il a le temps de prendre une veste et de changer de chaussures, moi aussi. Et nous sommes le deuxième hélicoptère pratiquement sur les lieux une heure après la catastrophe.
Comment on a appris, alors peut-être c'est la boîte orange, la boîte orange, on dit la boîte noire, mais en fait elle est orange.
Exactement, oui.
Comment on a su que c'était le copilote qui a crashé cet avion ?
Les doutes ont été levés lorsqu'effectivement nous avons pu obtenir l'intérieur de la voice recorder, l'enregistreur de voix. Il y en a deux, mais dans la première déjà tout était pratiquement dit et on a distinctement bien compris le scénario, ce qui s'était passé. Le pilote était parti aux toilettes et le copilote s'est enfermé à l'intérieur de la carlingue. Malheureusement, il n'était plus possible dès lors de rentrer, de pénétrer, y compris pour le pilote, à la suite des dispositifs qui avaient été placés pour lutter contre les attentats terroristes où les terroristes pouvaient pénétrer dans la cabine. Donc, vous voyez que malheureusement, là, ça a été un empêchement pour pouvoir intervenir à l'intérieur de la cabine de pilotage. Et là, nous avons eu affaire à un homme, qui était Andreas Lubitz, qui était déterminé, qui avait planifié ce crash, peut-être même répété à l'occasion de vols précédents. Et il a envoyé à la mort 149 personnes avec lui en s'écrasant contre cette montagne des Trois-Évêchés.
Deux petites questions. Première, combien de temps pour écrire ce livre de mémoire ?
Il nous a fallu, avec Jean-Michel Verne, un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois parce qu'il a fallu recueillir les témoignages qui manquaient pour personnaliser un petit peu ce qui auparavant avait été plutôt, lors de ma première rédaction, une somme de procès-verbaux de synthèse.
Ma deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres projets après ce livre ?
La réponse est oui. Le problème, c'est quand, parce que le temps manque, mais oui, parce que mon combat contre le crime, aujourd'hui, a fait l'objet de commentaires parmi mes camarades, anciens notamment des sections de recherche de France, de gendarmerie, qui m'ont dit « mais tu n'as pas parlé de telle affaire pourtant célèbre ». faire Flactif par exemple en Savoie, tu n'as pas parlé de l'affaire, que sais-je, des paillotes, tu n'as pas parlé de l'affaire des Irlandais, tu n'as pas parlé de grandes affaires traitées par la gendarmerie. Pourquoi ? Eh bien, je leur ai dit tout simplement parce que ce n'était pas mon combat et que je n'étais pas présent. Donc, la suite, tout naturellement, c'est lorsque j'aurai le temps de m'y consacrer, j'ai déjà en tête l'ensemble du scénario de leur combat contre le crime.
Troisième et dernière question, c'est promis. Est-ce que quand tu as écrit ce livre, ça a été avec beaucoup d'émotion ?
Naturellement, parce que il y avait aussi ce désir d'expliquer à ma famille tout le temps passé en dehors d'eux.
Et en fait, il y a une émotion qui est également particulière, c'est celle de Enzo Ramazzotti.
C'est vrai.
Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così presti nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Dedicare di più, più di quel tempo che ti posso dare, ma nel mio mondo non ci sei solo tu, io perciò devo andare. Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente.
C'était Musique à thème.
Attention, on a fait l'émission Musique à thème.
Avec Céline Thème.
On a fait l'émission Musique à thème.
Oh, éclaté.
Et voilà, il est temps malheureusement de se quitter. Nous étions en compagnie du général d'armée David Galtier pour nous parler de son parcours humain, militaire, politique et puis surtout nous parler de son livre « Mon combat contre le crime » avec comme auteur Jean-Michel Verne. C'est édité aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez retrouver et acheter ce livre tout simplement dans une librairie qui est à côté. Alors, tu vas m'en dire un petit peu plus, David, s'il te plaît. C'est avec, quelle rue, en fait?
Avec plaisir. C'est à côté du rond-point du Prado, juste...
Comment ça s'appelle
La rue, bah, c'est la librairie du Prado, en fait.
Librairie du Prado.
David Prado, voilà.
Très bien, David Prado. Sinon, eh bien, ce que vous faites, vous allez dans n'importe quelle librairie. Vous dites, je veux le livre « Mon combat contre le crime » de David Galtier. Voilà, et c'est sûr qu'ils le commanderont sur la Fnac, Amazon, enfin bref, dans tous les lieux, vous pouvez vous le procurer. Tout d'abord, merci infiniment David Galtier, ou je veux dire mon général, simplement, pour avoir participé à cette émission. Merci David Galtier pour nous avoir énuméré un petit peu tout ton parcours professionnel. Ça a été un grand et un joli moment de partage avec nos amis auditeurs.
Merci infiniment Serge, merci Radio Oraviv de son invitation et merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer et de pouvoir parler aussi longuement de mon ouvrage, mais aussi de ma carrière, qui finalement explique le pourquoi de cet ouvrage.
Et comme tu l'as dit précédemment, donc lors du deuxième tome, eh bien, on aura le plaisir de te recevoir et de t'inviter à nouveau sur les ondes de Radio Oraviv. Voilà, ainsi s'achève Musique à thème. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Shalom, les trottes et bon baiser de Musique à thème. À la semaine prochaine. Au revoir, mon général.
Au revoir, Serge.
Et à bientôt.
À très
bye
vite,
bye.
Merci.
Oraviv, plus près de vous.